en direct des studios de Nous TV. C'est le débat des candidats au 106.9 Mauricie. Voici Robert Pilote.
Rebonjour, rebonjour. Ce débat va se poursuivre au cours des prochaines minutes. Et cette fois-là, on va vous parler de santé. La santé, c'est au cœur de toutes les préoccupations. Vous savez que c'est le plus grand poste budgétaire au Québec. C'est des milliards et des milliards de dollars. En région, les défis liés à l'accessibilité des soins, au vieillissement de la population demeurent criants, à l'instar des autres régions du Québec. D'abord, pour nous parler de santé, et je vous le rappelle, ce sont des tirages au sort qui ont eu lieu au début de ce débat, qui permettent d'entrée de jeu à la coalition Avenir Québec, Sonia Lebel, de s'exprimer. Madame Lebel, vous avez une minute.
Alors, bonjour, Robert. Vous l'avez dit en entrée de jeu, hein, c'est un enjeu éminemment national, mais régional. 15h42, c'est le délai d'attente présentement à l'hôpital régional de Trois-Rivières. Aujourd'hui même, après vérification, on était au taux d'occupation des civières à 113%. Donc, ce n'est pas seulement qu'un enjeu national, c'est régional. Le taux de vieillissement de la population en Mauricie, particulièrement dans la région de Mackinac, qui touche le comté dans lequel je me présente, Champlain, est également important. Ces gens-là ont du mal à se déplacer, ont du mal à se rendre vers les centres hospitaliers. Alors, je pense que c'est important de pallier à ça. Il faut faire mieux. Quand on attend 3-4 heures à l'urgence, on trouve ça normal, puis on est content. C'est pas vrai, c'est pas normal. L'hôpital juif de Montréal arrive à le faire en 90 minutes. C'est un gros centre hospitalier. Je pense qu'il y a des moyens de travailler pour que ça soit plus accessible. Il y a des moyens pour faire en sorte que ça soit qu'on désengorge les urgences. Il faut travailler en amont. Il y a la prévention, il y a l'intervention de première ligne, et c'est l'objectif que l'on s'est donné à la Coalition Avenir Québec, tant pour naturellement la province de Québec, mais également pour la région de Trois-Rivières, que ce soit pour l'hôpital régional de Trois-Rivières ou le centre Cloutier du Rivage, qui touche particulièrement le comté dans lequel je me présente.
Merci beaucoup. Autour du Parti québécois, Nicole Morin, pour parler santé, vous avez une minute.
Oui, merci. Alors, pour le Parti québécois, c'est simple. Il faut revenir au sens, au service des gens, prendre soin de notre monde. Moi, je vous dirais en premier, c'est valoriser les 200 000 professionnels, la santé, en favorisant l'interdisciplinarité. Ça, c'est important pour leur donner plus de latitude. Imposer un gel de rémunération chez les médecins. Et cependant, il faut réouvrir les ententes et négocier avec eux autres quelque chose qui est plus terre à terre, qui respecte justement notre population. Garantir un accès à proximité à une infirmière spécialisée dans chaque CLSC. Il faut augmenter les heures durant le jour. Et 7 jours jusqu'à 21 heures. Et l'augmentation des services à domicile, tel qu'on sait, dans Masquinongé, c'est 20 % je crois 19,3 % de personnes âgées de 65 ans et plus, et l'ajout de soins à domicile de 900 000 heures et plus.
Merci, merci Mme Morin. Au Parti libéral du Québec, Jean-Denis Girard, vous avez une minute.
Merci beaucoup. Bien, effectivement, je le mentionnais à un média en fin de semaine, les services de santé, c'est ce qu'on entend beaucoup parler des gens. Lorsque je rencontre des citoyens de façon quotidienne, on me parle des services de santé. Tout n'est pas rose, effectivement, mais tout n'est pas noir, je voulais dire, mais il y a quand même des choses qui se sont faites, des choses importantes. Je parlais de la superclinique tout à l'heure. La superclinique qui, effectivement, est ouverte 7 jours sur 7, 12 heures par jour, pour tous les programmes, tous les problèmes P4, P5, donc pour accélérer de façon très importante pour voir un médecin, les visites vers un médecin, pour désengorger nos urgences, et on a déjà des résultats concrets. Le temps d'attente à l'urgence diminue. On parle de 62,2% des gens qui passent en bas d'un délai de 4 heures à l'urgence à l'heure actuelle. Donc, il faut continuer à travailler, à améliorer les services pour la population. Au-delà de 60 médecins de plus en Mauricie depuis 4 ans. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir améliorer les services et au bénéfice de nos citoyens.
Autour maintenant de Stephen Roy-Collin dans Champlain. Vous avez une minute.
Vous n'êtes pas sans le savoir que les réformes Barrette ont fait des super structures supra-régionales. Et là, on assiste, puis les gens dans le milieu vont pouvoir vous le dire, on assiste à une centralisation des services vers Trois-Rivières, qui est la métropole régionale. Ben moi, j'en reviens pas que des gens que je croise dans mon porte-à-porte, à Saint-Prosper, par exemple, une dame que j'ai rencontrée, qui s'est installée, est à sa retraite, elle s'est installée à Saint-Prosper pour avoir accès au CLSC à Sainte-Geneviève-de-Batican. Elle a eu une blessure récemment, elle s'est rendue à Sainte-Geneviève. Et, il va falloir qu'elle aille à Trois-Rivières, elle n'a pas accès au CLSC ou à Saint-Marc-des-Carrières. Ce n'est pas normal qu'on doive se déplacer 45 minutes pour avoir accès à l'hémodialyse ou à quelconque service de santé si on n'a pas un médecin de famille au CLSC. Les CLSC devraient redevenir des CLSC 24/7, ouvert 24 heures, 7 jours sur 7. Ça ne devrait pas être transformé en GMF.
Merci beaucoup. Le moment de vous adresser une question par tirage au sort. C'est Québec solidaire, justement, qui va commencer le débat en santé, qui va lancer le débat en santé. Et on me dit, on me souffle à l'oreille qu'il y aura 2 minutes additionnelles pour débattre de santé aujourd'hui. Donc, après 5 minutes, Martin Francoeur va adresser la deuxième question. C'est une bonification. C'est extraordinaire. Marc-André Pelletier, on écoute avec grand plaisir et grand bonheur la question que tu vas adresser pour lancer ce débat à M. Roy-Colin.
Vous le savez, la Mauricie figure parmi les régions où la moyenne d'âge est la plus élevée. On fait face à un défi de taille dans les soins qui sont prodigués à nos aînés. Dans les dernières années, on a vu malheureusement des cas qui ont marqué l'actualité et qui, encore aujourd'hui, font réfléchir quand vient le temps de penser à nos personnes âgées. Comment prévoyez-vous faire en sorte de veiller à la santé, à la sécurité et aux soins prodigués, notamment en CHSLD auprès de nos aînés?
Vous avez la joie de lancer les hostilités. Par la suite, vous me regardez, vous voulez un droit de parole. On fait comme on a fait tout à l'heure, un petit coucou. On se quitte jamais du regard et tout sera extraordinaire pour le meilleur dans le meilleur des mondes, pour le mieux dans le meilleur des mondes. Monsieur Roy-Colin.
Pour répondre directement à la question des CHSLD, beaucoup de l'enjeu se situe autour des conditions de travail des employés. Ils sont brûlés, ils sont épuisés, ils sont à bout de souffle. Il faut travailler sur les conditions de travail. Il faut arrêter de les traiter comme des numéros. À l'heure actuelle, le personnel de la santé est traité comme un numéro. Et donc, on leur oblige de faire beaucoup de paperasse. Et ils n'ont pas de temps avec les patients.
Effectivement, on a un défi de main-d'œuvre au niveau de nos soins aux aînés. C'est pas un défi d'infrastructure. Ce n'est pas en bâtissant des maisons à travers le Québec qu'on va régler le problème. C'est vraiment un défi de main-d'œuvre. Il faut être plus attrayant pour cette fonction-là au niveau des aînés, pour s'assurer qu'on ait des gens qui veulent faire la formation. Une formation accélérée, il y a un projet pilote à l'heure actuelle dans le comté de mon collègue Marc Ashplante, une formation sur 6 mois accélérée pour les préposés aux bénéficiaires pour nous permettre d'en avoir rapidement. Ça, c'est une solution concrète qui va améliorer le service dans nos CHSLD.
Oui, cependant, une formation accélérée, mais le problème, même dans le recrutement de la formation, M. Girard, il manque d'étudiants. Alors, c'est ça, premièrement, on devrait valoriser la profession avec un salaire qui serait beaucoup plus acceptable, puis c'est beaucoup de responsabilités. De plus, il faut penser justement, nos gens vieillissent, la population, ça va aller en escaladant. Il faut justement aussi répartir, fait comme exemple, un pharmacien pourrait donner plus de services à la pharmacie ou quoi que ce soit, ergothérapeute dans les CHLD, qui pourrait faire quelque chose d'autre que le médecin?
Bien, je suis contente qu'on en parle parce qu'effectivement, là, on parle beaucoup des CHSLD, mais nos aînés ont besoin d'un milieu de vie, c'est important, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent rester à la maison. Donc, il faut augmenter aussi l'accessibilité des soins à domicile. Il faut augmenter effectivement l'usage. Et une des façons de donner accès à nos aînés, c'est effectivement d'augmenter les services de première ligne. Il faut travailler avec les ordres professionnels. Je connais les ordres professionnels, j'en proviens. Il y a beaucoup de chasse gardée, les pharmaciens. On parlait j'ai parlé avec les hygiénistes dentaires dernièrement. Si elles pouvaient se déplacer, se détacher des cliniques, pourraient aider nos aînés au niveau de leur santé.
Les soins à domicile, effectivement, soins à domicile, très important pour garder les gens à la maison, effectivement. Et depuis l'année passée, au niveau du CIUSSS-MCQ, on parle de 52 personnes de plus à temps complet qui travaillent en soins à domicile. On parle également d'une enquête qui a été faite où on est satisfait à 95% des services qui sont donnés par ces gens-là. Là, il faut continuer à donner des soins à domicile. On a commencé à le faire. Comme je disais tout à l'heure, rien n'est parfait, mais il faut continuer à travailler de cette façon-là.
J'aimerais, M. Girard, vous dire que, justement, les soins à domicile sont donnés par des organismes communautaires, la plupart, dont plusieurs au-dessus, à peu près 26 dans la région de Masquinongé, justement, qui donnent ces soins-là. Le Parti québécois, justement, donne 200 millions de dollars durant le premier mandat pour justement faciliter le recrutement des travailleurs, justement pour fournir des soins à domicile et tout.
Sur quoi, Colin, on est le seul a des parti choses qui fait à dire. C'est votre tour. Et tout de suite après, je vais donner la parole à Mme Lebel tout de suite après vous. Allez-y.
Premièrement, il y a une différence entre soins à domicile et soutien à domicile. Le soin à domicile, il y a des professionnels de la santé. Et oui, effectivement, il y a des organismes communautaires qui offrent de plus en plus de services. En fait, on pèle beaucoup de responsabilités dans leur cours sans leur donner les moyens de venir en aide aux gens
dans la communauté.
Donc, Madame Lebel.
Et c'est justement, il faut revoir. Effectivement, il y a différence entre soutien et soins, mais souvent, ce sont les interventions, des intervenants de première ligne qui sont capables aussi de détecter les problèmes en amont. Ils sont là pour avoir, bon, ils ont une relation. Il y a les organismes communautaires, il y a l'économie sociale aussi. Ce qu'on sait dernièrement, c'est que les soins à domicile ne sont pas dans la liste des soins subventionnés. L'entretien ménager l'est. Mais je pense que c'est important d'inclure ça dans la liste, de revoir la mission des organismes communautaires et surtout leur financement, de le faire à la mission et non pas au projet comme ça.
Vous savez, des moyens concrets d'améliorer la qualité de vie de nos aînés, au niveau de nos aînés qui ont des problématiques de santé, c'est l'engagement que j'ai pris avec Carpe Diem pour pouvoir exporter cette façon de faire où on travaille vraiment avec les gens atteints d'Alzheimer, où on a un milieu familial, un milieu vraiment concret pour ces gens-là. Et également, mon engagement au niveau d'Albatros pour ajouter 4 lits supplémentaires pour les gens en fin de vie. Donc ça, c'est des engagements concrets à Trois-Rivières pour améliorer la qualité de vie de nos aînés et pour aider nos aînés qui ont des problématiques de santé.
Pour mon comté Meskinongé, ce qui est le plus important, vu que c'est un grand territoire, il faut décentraliser. Il faut permettre aux gens, justement, d'être proches du service, ce qui n'est pas en ce moment avec la centralisation que le Parti libéral a faite.
En ce moment, de ce que j'entends dans le débat, là, on a évacué la question des proches aidants. Les proches aidants, si on veut garder nos aînés à domicile, ben on a besoin de proches aidants qui sont soutenus dans leur travail auprès de leur des personnes qui sont affectées.
Nous sommes engagés avec les proches aidants également un crédit d'impôt pour les familles qui vont vouloir modifier la maison pour pouvoir accueillir une personne aînée chez eux.
C'est déjà terminé pour les 5 prochaines minutes, mais on a un bonus de 5 minutes additionnelles pour discuter de santé et pour adresser la question Martin Francoeur du Nouvelliste.
Ça tombe bien parce qu'on en parlait, hein. On aborde souvent le sujet de la santé en parlant des soins, des lits, des temps d'attente, des médecins de famille, des super cliniques. Mais la santé, c'est aussi les services sociaux, les organismes communautaires d'aide, de soutien, d'alphabétisation, d'éducation, etc. Actuellement, dans notre région, c'est près de 2000 travailleurs appuyés par 15 000 bénévoles qui aident à nourrir plus de 29 000 personnes chaque mois, qui viennent en aide à 25 000 personnes en perte d'autonomie, qui rejoignent plus de 10 000 jeunes, qui aident 9 000 personnes handicapées et leurs familles et qui hébergent 2 000 personnes aux prises avec d'importants problèmes sociaux. C'est toute une communauté, et je reprends les paroles de François Landry de la table régionale des organismes communautaires, c'est toute une communauté qui aide sa communauté. Les organismes financés essentiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux ont été victimes de compressions importantes au cours des dernières années. Pour le Centre du Québec et la Mauricie, on estime à 24 millions le manque à gagner en ce qui a trait au financement de ces organismes. Qu'est-ce que vous proposez pour soutenir adéquatement et financer adéquatement les organismes communautaires en santé et en services sociaux?
Et au Parti québécois, M. Leclerc, vous avez le bonheur d'entreprendre ce débat, un débat qui va durer encore une fois 5 minutes. On vous écoute.
Mais première des choses, on s'est promené pas mal dans notre comté, dans le comté de Champlain, que ce soit la MRC des Chenaux ou Mackinac. On a rencontré beaucoup d'organismes communautaires. Et comme j'arrive dans ce milieu-là, j'étais bien surpris, très, très, très surpris de voir que tous ces organismes communautaires-là, la grosse majorité, n'ont pas eu d'augmentation dans les 9 dernières années. Et ça, il n'y a eu aucun. Ils ne font même pas d'indice de prêt à la consommation. Ils ne font même pas d'IPC là-dessus, là. Ça, j'en suis pas revenu. Je suis tombé des nues d'entendre ça. Oui.
Alors, il y a la question du financement, mais il y a la question du mode de financement. Alors, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'on devrait financer les organismes à la mission. Présentement, année après année, beaucoup de leurs effectifs sont mis à de la reddition de comptes pour des financements par projet qu'ils doivent refaire à chaque année. Déjà, si on dégage les organismes communautaires, qui sont notre écosystème de première ligne, faut le dire, en santé, il y a la prévention en santé autant que le reste. Si on dégage ces organismes-là de cette obligation-là de refaire des demandes année après année, ça leur donne un objectif plus éloigné en termes de financement sur 3 ans, déjà, on va avoir fait un grand pas les concernant.
Là-dessus, c'est rare que je vais dire ça, mais je suis d'accord avec la CAQ, je suis d'accord avec Mme Lebel, qu'il faut effectivement augmenter le financement à la mission. Voilà. C'est la base. À l'heure actuelle, on fait trop de financement par projet. Puis les gens dans le communautaire, moi, je suis issu du communautaire, et les gens du communautaire, ils ont un grand cœur. On leur coupe leur financement et ils réalisent quand même la mission. Donc, quand ils demandent du financement au gouvernement, ils leur disent, ben vous avez réussi votre mission. Vous avez réussi votre mission parce que ce sont des gens de cœur.
Alors, écoutez, il faut faire attention à ce qu'on dit. Effectivement, il n'y a pas eu d'augmentation systématique au prorata ou à l'IPC. Par contre, il y a des organismes qui ont été considérablement augmentés. Oui, on est allé par projet. Je suis d'accord avec mes deux collègues que le financement à la mission est la meilleure solution. Par contre, ce qu'il faut dire, il faut aussi dire qu'il faut investir dans les gens qui utilisent les services, les aidants naturels. Et c'est important. Et tantôt, il faut que je revienne sur ce que ma collègue de Masquinongé a dit, là, quand elle disait que les soins à domicile étaient produits par les organismes communautaires. C'est pas vrai. Les soins à domicile, c'est l'aide à domicile qui est faite par les organismes communautaires, mais les soins de santé sont faits en majorité par des gens de santé, mais les organismes communautaires sont des organismes essentiels au développement des services de santé en région.
Je suis contente de voir qu'on est d'accord. Donc, peu importe du côté de la Chambre qu'on se trouvera, on pourra parler de financement à l'émission plutôt qu'au projet. Ça sera déjà un pas de fait. Merci. Oui, exactement. Puis, je pense qu'on est là de toute façon pour les mêmes objectifs, peut-être avec des moyens différents. Par contre, effectivement, quand on parle de gens qui sont dévoués, vous avez extrêmement raison, mais quand même, le milieu de la santé est très compétitif et malheureusement, les organismes communautaires peuvent pas compétitionner en termes de salaire. Alors qu'on sait que le lien personnel avec les gens que l'on soigne, surtout pour les organismes communautaires, est très important. Donc, c'est important, effectivement, de leur donner des moyens de garder leurs employés.
C'est pour ça que très bien que les gens qui travaillent dans le communautaire, la grosse majorité du temps, c'est des gens vraiment de passion. C'est des passionnés parce que pour demeurer dans le communautaire, quand on sait très bien qu'il y aurait une meilleure rémunération en allant dans le privé ou dans d'autres secteurs, fait que c'est sûr que ces gens-là, il faut les garder parce que c'est pour le bien, parce que tout à l'heure, vous avez dit que la population de la région de Trois-Rivières est vieillissante. C'est vrai qu'on est la population la plus vieillissante, fait que on va en avoir de plus en plus de besoin de ces organismes-là pour soutenir ces gens-là.
Valérie Delage, à Québec solidaire.
Bien, c'est sûr qu'en tant qu'intervenante dans un organisme communautaire, cette question me rejoint particulièrement. Oui, il faut augmenter le financement des organismes communautaires à la mission, mais il faut aussi augmenter les conditions de travail des salariés. Donc, le 15 $ de l'heure, c'est un élément. On peut soutenir le communautaire pour ça. L'assurance dentaire publique, moi, j'ai pas d'assurance collective étant dans le communautaire, ça aide les travailleurs qui sont dans le communautaire. Un mois de vacances supplémentaires, les normes du travail. Écoutez, et financer les services publics pour enlever la pression sur les organismes communautaires.
Écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde ici, puis je pense qu'on est tous d'accord que les gens des organismes communautaires font un travail extraordinaire. Oui. C'est des gens de cœur, c'est des gens passionnés. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas aussi faire le marchandage des salaires en disant, mais parce que les organismes qui ont des bonnes rémunérations, il y a des organismes qui ont des missions typiques, exemple en violence conjugale, etc., qui ont eu des augmentations majeures. Par contre, il n'y a pas eu d'augmentation sine qua non, et ça, je suis capable de le dire. Par contre, il faut continuer, poursuivre, travailler à financer plus la mission et travailler aussi sur la reddition de comptes pour la facilité.
Présentement, le système des organismes communautaires fonctionne sur la bonne volonté, sur l'énergie, sur le dos des gens dévoués. Je pense qu'il faut que ça cesse, il faut leur apporter notre soutien. Il faut une fois pour toutes comprendre qu'au Québec, si ça fonctionne, c'est parce qu'ils sont présents.
Vous aurez le mot de la fin pour conclure ce thème de la santé, Mme Delage.
Je pense que pour diminuer la pression sur les organismes communautaires, la lutte à la pauvreté, c'est un des éléments majeurs. On a vu dans les dernières années une augmentation de l'utilisation des banques alimentaires. Ça met de la pression sur les organismes communautaires. J'en suis témoin tous les jours. Ça, c'est...
Allez-y. Je vous laisse les quelques secondes. Ça, c'est...
C'est ça, les banques alimentaires. Maintenant, il y a des travailleurs, il y a des étudiants, il y a des aînés qui utilisent les banques alimentaires. C'est plus juste les gens sur l'aide sociale. Donc, la lutte à la pauvreté, c'est essentiel.
Merci beaucoup. C'est déjà terminé. Vous avez très bien fait ça. Et le plaisir qu'on aura, c'est de se redécouvrir encore une fois après la pause, puisqu'il faut prendre une courte pause. Et on va parler d'avenir, perspective d'avenir. Ah, mon Dieu Seigneur. Effectivement, tout va se passer là dans ce débat. Je vous invite à la maison à pas bouger de là, ceux qui nous écoutent via Nous TV. À la radio, bien sûr, l'émission Midi Plus qui va se poursuivre jusqu'à 14h aujourd'hui, et le débat, lui, va prendre fin autour de 13h30. Analyse qui va suivre tout de suite après le débat à proprement parler. Merci d'être là. On fait une courte pause. On se retrouve dans deux minutes. 106.9